toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit et demi ici à Paris, 22h30 à Conakry en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Stéphane Geneste, bonsoir à toutes et à tous. Le silence de la CEDEAO pointé du doigt par les avocats de Fonike Menge et Mamadou Biloba, 2 mois après leur enlèvement en Guinée, on est toujours sans nouvelles de ces 2 militants de la société civile. Aujourd'hui, leurs proches demandent que la communauté ouest-africaine fasse entendre sa voix. Le premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel, c'était ce lundi. Pacte sécuritaire et diplomatique entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et les 3 États souhaitent désormais approfondir leurs relations en matière économique. Le dossier d'Afrique Soir consacré aux inondations au Tchad, le pays particulièrement touché par les fortes pluies des dernières semaines. Et cet épisode met en lumière la construction anarchique d'une grande ville comme N'Djamena, ce qui accentue et aggrave la montée des eaux. Le Soudan, toujours le théâtre d'une terrible guerre, elle dure depuis 18 mois. La semaine dernière, les forces de soutien rapide du général Hemeti ont commis de nouvelles exactions dans le centre du pays. Et puis l'actualité sportive, fin de saison pour 11 Jabeur, la tenniswoman tunisienne blessée à l'épaule, met un terme à un exercice 2024 compliqué sur le plan des résultats. Où sont Fonike Menge et Mamadou Biloba? C'est la question que se posent les familles et les avocats des 2 militants du FNDC arrêtés en Guinée il y a plus de 2 mois. Depuis donc plus aucune nouvelle, les avocats interpellent désormais la CEDEAO et demandent à la communauté ouest-africaine de prendre position. Personne ne doit faire semblant et ignorer ces disparitions, estime Maître Vincent Bangart.
Nous aujourd'hui, nous sommes sidérés face au silence de la CEDEAO sur ce dossier, alors même que les 2 activistes ont maintenant disparu depuis le 9 juillet dernier et que ça n'ait pas suscité de réaction à la hauteur de la gravité des faits qui sont reprochés aux autorités guinéennes. Personne ne peut plus faire semblant parce qu'il y a un ensemble d'éléments qui mettent en exergue la responsabilité des autorités guinéennes et personne ne peut plus faire semblant parce que il est impensable de croire que les juridictions guinéennes vont aller jusqu'au bout des investigations les concernant. Mais on voit véritablement que cet enlèvement non seulement marque une atteinte considérable aux droits de la société civile et que c'est une nouvelle confirmation qu'il n'y a pas véritablement de possibilité d'entrevoir de façon positive l'avenir démocratique de la Guinée. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous multiplions les différentes initiatives parce que nous avons toujours espoir qu'il soit toujours en vie, mais c'est une question qu'on ne se pose pas à l'heure actuelle pour pouvoir multiplier les initiatives, pour pouvoir faire en sorte que la pression sur les autorités guinéennes soit suffisante pour que tout soit fait pour permettre leur mise en liberté.
Maître Vincent Brangart, joint par Guillaume Thibault. La CEDEAO, ils l'ont eu quitté au mois de janvier dernier. Ils, ce sont le Niger, le Mali et le Burkina Faso, les 3 pays de l'AES qui fêtent justement ce lundi le premier anniversaire de l'Alliance des États du Sahel. Pacte sécuritaire et diplomatique avec par exemple du partage de matériel pour lutter contre le terrorisme et une volonté qui se dégage, celle d'approfondir un rapprochement économique avec par exemple la mise en place d'un passeport biométrique, d'une banque d'investissement ou encore d'un fonds de stabilisation. Ce sont des promesses avancées dimanche soir par le président malien de transition, Assimi Goïta, qui est également président en exercice de l'AES. Alors comment comprendre ces annonces? Écoutez l'analyse de l'économiste malien Modibo Mahoumakalou.
Plus de 60% du produit intérieur brut de ces 3 pays dépend des importations et des exportations de 2-3 produits majeurs. Pour le Niger, l'uranium et le pétrole. Pour le Mali et le Burkina, l'or et le coton. Ces produits sont des matières premières qui dépendent des prix du marché international. Cela comporte une grande volatilité et cela a un impact majeur sur les recettes fiscales, sur les recettes d'exportation. Donc, le fonds de stabilisation, quand les prix sont élevés, c'est de constituer un fonds d'épargne au cas où les prix vont chuter.
On comprend donc l'intérêt de ce fonds de stabilisation. Et pour ce qui concerne la banque d'investissement,
l'idée, c'est comment orienter les investissements vers les secteurs prioritaires, faire en sorte que les services sociaux de base qui rentrent dans le cadre du développement humain peuvent être améliorés. C'est d'abord une question de confiance. Je crois qu'il faut donner des gages aux investisseurs. Nous parlons non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi la lisibilité des politiques publiques.
L'économiste malien Modibo Mahoumakalou, ancien conseiller à la présidence, aujourd'hui directeur du cabinet de conseil IBS, interrogé par David Baché. Les États-Unis annoncent ce lundi avoir terminé leur retrait complet du Niger. Retrait qui s'est déroulé sans complications, fait savoir AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Ce retrait avait débuté en mai, 2 mois après la dénonciation par la junte nigérienne de l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Le Niger, touché hier par 2 attaques dans les régions de Dosso et Tillabéri, un poste de douane et de police incendié à Tounouga, à la frontière avec le Bénin et le Nigeria, et une position de l'armée prise pour cible à Niaktiré. C'est dans le Gourma nigérien, pas de bilan officiel, mais des sources civiles parlent d'une 15aine de morts civiles et militaires. Au moins 8 morts en Sierra Leone. C'est un immeuble résidentiel de 7 étages qui s'est effondré ce lundi à Freetown, la capitale, en fin de matinée. L'agence de gestion des catastrophes précise qu'il reste des victimes coincées sous les décombres sans en dire le nombre. Selon des témoins, plusieurs dizaines de personnes vivaient dans cet immeuble.
Mundo 100.3 FM.
On en parle depuis plusieurs semaines sur RFI, cette intense et meurtrière saison des pluies en Afrique de l'Ouest et centrale, Guinée, Niger, Mali, mais aussi le Tchad. 487 décès recensés selon le dernier bilan donné vendredi par les autorités et les Nations Unies. C'est 146 morts de plus qu'une semaine plus tôt, François Mazet.
Le bilan des inondations continue d'enfler. 487 décès, près d'1 700 000 personnes touchées, 200 000 maisons détruites et 66 000 têtes de bétail perdues. Un chiffre important dans un pays où l'élevage est une activité économique et sociale centrale. Selon les autorités, 117 départements sur 120 sont victimes de ces inondations. La province la plus touchée en termes de personnes affectées est la région du Lac. Mais le bilan humain est surtout lourd dans les régions du sud du pays, l'Ogone oriental et Mayo-Kébi ouest en particulier, ainsi que dans celles de l'Est, le Wadaï et le Wadi Fira, où les populations ont été surprises par les très fortes précipitations auxquelles elles ne sont ni habituées ni préparées, nous expliquait récemment un expert des Nations Unies. L'ONU jugeait la semaine dernière nécessaire un plan de réponse de 97 millions de dollars américains, mais moins de 10% étaient disponibles, largement insuffisant pour venir en aide aux sinistrés, d'autant que les précipitations se poursuivent ces derniers jours, faisant craindre des crues encore plus importantes des principaux cours d'eau du pays.
Voilà, les pluies qui continuent et la crainte de nouvelles crues et de nouvelles victimes. Et cet épisode d'inondation s'explique aussi par l'urbanisation mal adaptée avec ces villes qui se sont développées de manière anarchique. C'est le cas de la capitale tchadienne, N'Djamena. C'est en tout cas une des raisons avancées par l'urbaniste Tob Rone Dilbé, enseignant-chercheur à l'université d'Abéché.
Le fondement de l'urbanisation, c'est d'anticiper en quelque sorte l'occupation du sol en ville. Et durant la période coloniale, cet état de choses était contrôlé parce qu'il fallait filtrer l'accès à la ville à travers l'obtention ou bien la détention de laissez-passer. Et aux indépendances, le verrou a été levé en faisant en sorte que l'arrivée massive des populations en ville n'ont pas été anticipée par les pouvoirs publics du Tchad indépendant. Donc les occupations ont commencé par se faire de façon spontanée, précédant ainsi tous les travaux d'urbanisme, d'implantation des réseaux d'évacuation d'eau qui devaient être implantés au préalable pour permettre à la ville de parer à toutes les situations d'inondation sous quelque forme que ce soit.
Parce qu'il y a beaucoup de terrains N'Djamena hein, qui sont en fait des terrains d'argile et de basse altitude hein, sous les eaux du fleuve.
Si vous voyez aujourd'hui sur la dizaine d'arrondissements, il y a seulement 2-3 qui correspondent effectivement à ce noyau colonial qui sont exempts de l'inondation. Tout le reste de la ville a été implanté sans pour autant tenir compte des zones qui pourraient être propices à l'urbanisation ou pas.
Alors un projet d'étude pour la création d'une ville nouvelle a été lancé en juillet et finalement abandonné au début du mois. Mais pour vous, si je vous comprends bien, la solution n'est pas de créer une ville nouvelle, mais plutôt de réformer l'existant.
La solution, de mon point de vue, c'est de procéder effectivement à des restructurations, de se servir peut-être de ce petit comité qui a été mis en place pour établir un diagnostic réel de l'existant, pour pouvoir effectivement étendre les réseaux d'évacuation, les réseaux d'assainissement qui n'ont pas été prolongés et permettre ainsi à la capitale d'Amena de sortir un peu de cette situation déplorable où elle se trouve.
Et pour cela, il faut une volonté politique, il faut des lois et des règlements. Est-ce qu'ils sont suffisants, satisfaisants à l'heure actuelle au Tchad?
Je viens d'indexer là le permis de construire qui devrait être révisé pour inciter à l'utilisation des infrastructures vertes. Il y a également tout le pan de la planification urbaine qu'il faudra remettre sur la question de telle sorte à donner d'abord dans un premier temps la parole aux techniciens qui feront des propositions qui seront validées par le pouvoir décisionnaire. Et une fois que ces textes de loi sont adoptés officiellement, il va falloir les appliquer. Le hic est qu'il y a des premiers documents de planification qui existent, n'ont pas totalement été appliqués. Il y a beaucoup de réserves, il y a beaucoup d'espaces verts qui ont été désaffectés et l'ensemble de ces petites choses ont concouru à déboucher sur cette situation déplorable à laquelle nous sommes confrontés actuellement.
L'urbaniste Tobro Dilbé de l'université d'Abéché, il était l'invité de Nicolas Sûr dans Afrique Midi. En tout cas, la situation dans la région est critique. Le Conseil norvégien pour les réfugiés lance un appel urgent à la communauté internationale. Car selon les chiffres de l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont été touchées en Afrique par cet épisode d'inondation. Mais il faut plus d'argent car les populations les plus vulnérables subissent non seulement les conséquences des conflits armés, mais aussi désormais de plus en plus les effets du changement climatique. Christelle Huré est responsable plaidoyer du Conseil norvégien pour les réfugiés sur l'Afrique de l'Ouest et centrale.
La priorité immédiate, c'est que les personnes puissent avoir un soutien en termes d'abri, de nourriture et de produits d'hygiène. Il y a beaucoup de personnes, bien sûr, qui ont tout perdu dans des zones déjà fortement impactées par les conflits. Et après, ça va être d'éviter que les maladies type le choléra ne se propagent. Une fois qu'on va avoir apporté de l'assistance alimentaire immédiate, il y a toute cette question de l'accès aux terres qui ont été inondées dans une région où, encore une fois, l'insécurité alimentaire ne fait qu'augmenter ces dernières années. Les populations sont déjà fortement touchées par l'impact du conflit, mais aussi l'impact du changement climatique, que ce soit inondation ou sécheresse. Et donc, on sait qu'à moyen terme et bien sûr à plus long terme, ça va être aussi une priorité essentielle pour laquelle il va falloir beaucoup plus de financement sur la région.
Un propos recueilli par Magali Lagrange. Minuit 41, ici à Paris, l'ambassadeur congolais en Belgique, convoqué par le ministère des Affaires étrangères. Bruxelles proteste contre la condamnation à mort de Jean-Jacques Wondo, citoyen en Belge, condamné vendredi à Kinshasa dans le procès sur les événements du 19 mai, qualifié de tentative de coup d'État par les autorités de RDC. Jean-Jacques Wondo, expert militaire, est considéré par la justice congolaise comme le concepteur de ce coup d'État manqué. La RDC, ce nouveau drame de la navigation, 4 personnes sont mortes et une quarantaine portées disparues après le naufrage d'une baleinière dans le sud-ouest du pays. 79 personnes ont pu être sauvées, a fait savoir le vice-gouverneur de la province du Kwango. Selon des témoignages, il y avait environ 150 personnes à bord. 18 mois de guerre au Soudan et toujours aucune issue en vue, alors que les civils continuent de payer un très lourd tribut dans ce conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires. Des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées et menacées par la famine. Et les combats qui se poursuivent à Khartoum et El Fasher encore la semaine dernière. Les forces de soutien rapide ont de nouveau commis des exactions dans l'état d'Al Jazeera, dans le centre du Soudan, avec le pillage de plusieurs villages. Ouda Ibrahim.
Selon un communiqué du comité de résistance de la région d'Abou Kouta, situé à l'est de l'état d'Al Jazeera, 40 civils au moins ont été tués dimanche dernier dans le village de Kouznaka lors de l'attaque des FSR. Selon la même source, 20 autres morts ont été enregistrés dans le village d'Andab, 2 à Wad El Gatra et 1 mort à Temboul, mais il n'existe aucun bilan complet de victimes. Près de 50 villages auraient été attaqués et pillés durant la semaine dernière dans Al Jazeera, selon plusieurs sources. Le quotidien en ligne Soudan Tribune rapporte que les FSR détiennent 17 civils dans l'un de ces villages et réclament des rançons pour les libérer. Des sources locales ont estimé le nombre de têtes de bétail pillées à 5000. La récolte a été également pillée. Au chef-lieu d'Abou Kouta, la banque agricole, le centre de la police et le marché ont été pillés et détruits. Les habitants ont été totalement dépouillés et obligés, sous la menace, de prendre le chemin de l'exode.
Ouda Ibrahim, et sur le Soudan, je rajoute cette déclaration, c'est l'une des situations les plus horribles dont j'ai été témoin, sont les mots de la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population, qui vient d'effectuer une visite dans le pays. C'est un déplacement qui fait polémique au Kenya. Le président William Ruto vient de rentrer d'Allemagne où il a signé un accord de partenariat sur les questions de migration. Objectif, selon le président kényan, sécuriser 250 000 emplois pour des jeunes diplômés originaires du Kenya. Un chiffre que Berlin a rapidement démenti et qui est désormais au cœur de la controverse à Nairobi. Gaël Lalex.
À peine William Ruto monte-t-il dans l'avion que le ministre de l'Intérieur allemand écrit sur X « L'accord entre l'Allemagne et le Kenya ne prévoit aucun chiffre ou quota de travailleurs qualifiés qui auront l'opportunité d'un emploi en Allemagne ». Un démenti cinglant pour le président kényan. C'est que l'exportation de la main-d'œuvre est une promesse de William Ruto. Au début de son mandat, il espérait permettre chaque semaine à 5000 jeunes kényans de quitter le pays pour travailler à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, l'opposant Ekuru Aukot affirme ne pas être surpris par le mensonge du président kényan. D'autres s'inquiètent des alinéas de l'accord passé avec l'Allemagne, car le texte prévoit également le rapatriement au Kenya des travailleurs non qualifiés et clandestins. Depuis le début de l'année, nous redoutons des déportations de l'Allemagne, explique Mudge Rolfe, fondatrice de Diaspora Network Hub, un réseau des Kenyans de l'étranger. Certains Kenyans en Allemagne nous écrivent déjà et demandent notre aide. Selon les autorités kenyanes, les premiers départs de travailleurs qualifiés pour l'Allemagne auront quant à eux lieu fin septembre. Alex Nairobi, RFI.
Au Ghana, un appel à manifester ce mardi de la part du principal parti de l'opposition, le NDC, demande un audit du fichier électoral. Le parti soupçonne des fraudes avec des électeurs en trop sur les listes, et ce à 3 mois de la présidentielle. L'actualité sportive en ce lundi soir, Patrice Motsepe a effectué une visite au Kenya, le patron du football africain a pu découvrir les enceintes qui accueilleront la CAN 2027 et le CHAN 2025. Le CHAN dont on connaît désormais les dates, ce sera du 1er au 25 février prochain au Kenya, donc en Tanzanie et en Ouganda. Le football avec une profonde déception pour un grand nom du ballon rond ivoirien, l'Africa Sport reste en deuxième division. Le tribunal arbitral du sport, le TAS, a validé la montée en Ligue 1 de son concurrent, l'ISCA, plus de 3 mois après la fin du championnat. C'est Youen Gourlet qui nous raconte cette histoire.
Douche froide pour l'Africa Sport, l'un des clubs les plus populaires du pays devra finalement patienter pour son retour en Ligue 1. Le 13 septembre, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a rendu sa décision. L'ISCA monte en Ligue 1 et l'Africa Sport reste en Ligue 2. Le 14 juin, lors de la dernière journée de championnat, l'Africa Sport avait fait match nul 0-0 contre l'US Chologo, alors que l'ISCA avait battu le Yamoussoukro FC 2-0, ce qui lui avait permis de remporter le championnat. Mais la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football, avait fait rejouer ce dernier match 2 semaines plus tard en raison d'erreurs d'arbitrage. L'ISCA avait finalement perdu 1-0 et l'Africa Sport avait remporté le championnat. Mais sur requête de l'ISCA, le TAS vient d'annuler la décision de la FIF de faire rejouer ce match. C'est donc le score du 14 juin qui a été validé. Une décision logique pour Ahmed Rasoul Koulibaly, le fondateur de l'ISCA.
Vous savez, l'article 42 du code disciplinaire qui porte sur les matchs à rejouer est très clair. Pour qu'un match puisse être joué, il faut qu'il n'ait pas pu être arrivé à son terme. Dans notre cas d'espèce, notre match contre le Yamoussoukro FC est arrivé à son terme. Nous n'avons donc pas du tout compris comment les commissions juridictionnelles de la fédération ont pu faire rejouer ce match. Donc nous étions sereins, nous savions que le TAS allait dire le droit. La justice a été rendue.
L'Africa Sport n'a pour le moment pas réagi à notre micro, mais a déclaré dans un communiqué qu'il marquait son opposition à cette décision et qu'il entreprendrait en urgence toutes les actions et procédures légales pour faire reconnaître ses droits. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Elle va devoir attendre 2025 pour faire son retour sur les courts de tennis. Onze Jabeur arrête sa saison. La Tunisienne est gênée par une blessure à l'épaule. Elle stoppe une saison tronquée et plutôt ratée, Eric Mamrut.
À 30 ans, Onze Jabeur connaît le plus important coup d'arrêt de sa carrière. Depuis son arrivée sur le circuit professionnel en 2010, la joueuse de Monastir n'avait cessé de progresser au classement, tutoyant les sommets il y a 2 ans en atteignant la 2e place mondiale. L'Afrique pensait alors avoir trouvé sa pionnière, celle qui allait enfin lui offrir un titre du Grand Chelem côté féminin. Mais la Tunisienne échouait à 3 reprises, à Wimbledon et à l'US Open en 2022, puis à nouveau à Wimbledon l'année suivante pour ce qu'elle a qualifié de défaite la plus dure de sa carrière. Une douleur à l'âme qui a précédé de nombreuses douleurs physiques. Son genou, pourtant opéré, l'a de nouveau handicapé cette année, tandis qu'une blessure à l'épaule polluait sa 2e partie de saison. Conséquence, Onze Jabeur n'a pu disputer que 14 tournois en 2024 pour des résultats faméliques. Seulement 16 matchs gagnés avec comme meilleure performance un quart de finale à Roland-Garros. Aujourd'hui 22e au classement mondial, la Tunisienne préfère prendre le temps de se soigner totalement, donnant rendez-vous à ses supporters en janvier en Australie.
Onze Jabeur qui a ajouté qu'elle allait également consacrer ce repos forcé à des œuvres humanitaire. Dans l'actualité sportive, il y a également le cyclisme et on retourne en Côte d'Ivoire puisque le Tour de Côte d'Ivoire se court en ce moment et il réussit plutôt bien cette année au Camerounais avec 2 victoires en 2 jours. Ce lundi, c'est Clovis Camzon Abosolo qui s'est imposé à Niéki, près de Sogon. Victoire devant 2 Burkinabés, Vincent Mouni et Mukaila Rawende. Clovis Abosolo récupère le maillot jaune et il fait part de sa fierté de voir flotter le drapeau camerounais sur ce Tour de Côte d'Ivoire.
C'est un travail d'équipe et je pense que depuis hier, on est sur une belle lancée. Je pense que déjà, le maillot jaune va changer d'épaule et je pense que ça va rester tout camerounais. On est dans le coup, on va essayer de gérer les étapes qui nous restent pour pouvoir rentrer au Cameroun avec le maillot jaune. Mon équipe a pris les choses en main dès le début et il ne fallait pas laisser une échappée prendre du champ. À un moment, il fallait que nous autres, on passe à l'offensive pour pouvoir un peu fatiguer les adversaires. Et j'ai attendu le bon moment à 30 km de l'arrivée. J'ai pu tenter un coup vraiment décisif et ça aboutit. Je pense que je peux que remercier mes équipiers qui ont fait d'abord un boulot exceptionnel pour que je puisse aller dans cette aventure. Le Burkina, c'est un adversaire vraiment coriace avec les Maliens. Je pense que c'est un peloton vraiment très costaud.
Clovis Abosolo au micro de Molamine, 6 Savané. La 3e étape de ce Tour de Côte d'Ivoire, c'est ce mardi entre Konefla et Sinfra.
Afrique Soir sur RFI.
Alexis Guilleux.
Minuit 50, ici à Paris, les grands titres de l'actualité. Je condamnerai toujours la violence politique. Les mots sont de Joe Biden en réponse à l'accusation de Donald Trump. L'ancien président américain pointe la rhétorique de Joe Biden et de Kamala Harris comme responsable de la présumée tentative d'assassinat contre lui dimanche. L'homme impliqué a été inculpé pour détention illégale d'armes et possession d'une arme au numéro de série caché. Le ministre américain de la Justice promet tous les moyens disponibles pour enquêter sur cet événement. Le Hamas s'est préparé à une longue guerre d'usure contre Israël. Déclaration ce lundi de Yahya Sinwar, porte-parole du mouvement islamiste palestinien. Un message qui intervient au lendemain d'une attaque sur le centre d'Israël revendiquée par les Houthis. Ce lundi, de nouveaux bombardements israéliens ont fait 20 de morts dans la bande de Gaza. Au moins 18 personnes tuées en Europe centrale et orientale après le passage de la tempête Boris. Les dégâts matériels sont encore très difficiles à estimer. L'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans plusieurs régions, en Autriche, Pologne ou encore République tchèque. Foyers sans électricité, routes encore coupées par endroits et les sols sont toujours saturés d'eau. Et puis Emmanuel Macron propose le nom de Stéphane Séjourné, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, comme commissaire européen sur les enjeux de souveraineté industrielle, technologique et de compétitivité européenne. Proposition après la démission de Thierry Breton, commissaire au marché intérieur. Thierry Breton qui était en froid avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Afrique Économie nous emmène à présent en Centrafrique, un pays où le secteur privé a toujours du mal à se développer. C'est plutôt l'informel qui règne. Autant d'activités qui ne contribuent donc pas aux ressources de l'État. Et pourtant, l'équation est plutôt claire pour le JICA, le groupement interprofessionnel de Centrafrique. Le développement du pays passera par l'essor du secteur privé. Dossier Afrique Éco, signé Charlotte Cosset.
Encourager les petites et moyennes entreprises, voici l'un des objectifs que s'est donné le JICA, l'une des 2 associations patronales du pays qui compte 50 de membres. Pour lui, le développement économique de la Centrafrique passera par les PME. Jonathan Nouganga, trésorier général de l'organisation, il s'en fait le porte-parole.
Le seul vecteur de croissance pour nous, ce sont les PME. Je prends un exemple des entreprises de téléphonie mobile. Leur vecteur de croissance n'est peut-être que sur des services à valeur ajoutée. Mais en termes d'abonnements ou d'abonnés, ils ne pourront pas croître beaucoup plus d'une année sur l'autre. Par contre, une PME peut facilement doubler, tripler son chiffre d'affaires selon qu'elle obtient des marchés, selon qu'elle se formalise, selon qu'elle soit pérenne dans le temps. Bien entendu, il y a un patriotisme. Plus il y a d'entreprises, plus le tissu économique est formel et important, plus on peut avoir un développement important, plus on donne les moyens au gouvernement de pouvoir réaliser ses objectifs et de réaliser les investissements structurels nécessaires. Pour cela, il faut un secteur privé fort et surtout formalisé.
Pour cela, le JICA travaille surtout à faire entendre la voix des entrepreneurs.
On se dit que plus on est nombreux à se connaître, plus on est nombreux à partager les mêmes problématiques, mieux on pourra trouver de solutions. Et le JICA aussi en représentant au niveau du guichet unique de formalité des entreprises. Donc on remonte les problématiques ou les problématiques de ces administrations aussi nous sont remontées. Donc on essaye d'être une plateforme de discussion. On croit au dialogue public-privé. On croit que le JICA peut contribuer au plaidoyer de toutes ces petites PME.
Des problématiques dont les autorités se disent être bien conscientes. Jean-Baptiste Koba, ministre conseiller aux investissements de la présidence.
Motiver les investissements, c'est rassurer et créer un climat des affaires pro-business et qui puisse redonner confiance donc à une communauté d'investisseurs qui très souvent préfère investir dans d'autres pays où le cadre est effectivement plus favorable. C'est le cadre des affaires en Centrafrique, l'environnement des affaires qu'il nous faut impérativement améliorer. Nous devons rassurer la communauté des investisseurs sur le plan judiciaire. Nous voulons plus de quiétude, plus de sécurité dans le respect des contrats, dans les procédures, par exemple, de licenciement.
Une loi sur le climat des affaires attend depuis plusieurs années d'être votée à l'Assemblée nationale. Dans un récent mémorandum, le JICA souligne également les défis structurels rencontrés par les entrepreneurs, la disponibilité et le coût du carburant, les questions énergétiques de manière générale et la qualité des infrastructures.
C'était le dossier Afrique Économie de Charlotte Cosset. 23h55 à Bangui. On quitte la RCA pour le Sénégal qui est à l'honneur dans Afrique Soir aujourd'hui avec Orchestra Baobab. 50 ans d'existence pour ce groupe. On écoute leur dernier titre, Jambari.
Fatu jom sutula munka mutanta moke yende di bede ye yende di bede ki baruni karoje mashallah malonde fayla silo si jamfa malonde fayla silo si jamfa malonde fayla silo si jamfa The mulaka bitata mula nadambaransela nakoromke fatu jumun sutula munka mutanta moke yende di bede yende di bede ibaruni karo Malonde, fayla silo si jamfa. Malonde, fayla silo si jamfa. Malonde, fayla silo si jamfa.
Wow.
Jambari des Sénégalais, Orchestra Baobab pour refermer cette dernière édition d'Afrique Soir. Merci à toute l'équipe, Jonathan Brady à la réalisation, Penaï Traoré à la rédaction en chef, assisté de Simon Bulbaudin. On vous dit à demain, très bonne nuit à l'écoute de la Radio du Monde. Vous restez avec nous, l'info revient dans moins d'une minute.
Ce jeudi à 20h10 TU, RFI vous invite au concert.
Il y a concert et concert. Là, nous vous convions à celui de Youssou N'Dour, enregistré lors des JO de Paris à la Station Afrique. Nous vous faisons revivre ce grand moment de musique que nous offre la star sénégalaise.
Revivez le concert de Youssou N'Dour ce jeudi à 20h10 TU en intégralité et avec ventilateur.
Soyez à l'écoute de RFI, vous êtes nos invités VIP. Ça va bien.